Bonjour, bonjour à tous. Merci de nous retrouver ici au sein de l'École nationale supérieure des beaux-arts de Paris. Il est quelque chose d'assez évident à se retrouver à parler d'édition au sein d'une école des beaux-arts, puisque l'École des beaux-arts, certains de ceux qui en sont issus se retrouvent très impliqués dans des projets éditoriaux, qu'ils soient graphistes, qu'ils soient éditeurs, qu'ils soient évidemment critiques, qu'ils soient programmateurs. Les écoles des beaux-arts ont nourri beaucoup de ceux qui désormais sont impliqués dans l'édition, donc il va de soi, on est heureux que nous nous retrouvions aujourd'hui autour de cette table ronde pour parler d'économie, d'économie de l'édition, 1h30 s'il le faut, pour évoquer les sujets du financement de l'édition d'art, avec le souhait, le désir de traiter et d'aborder assez précisément les dispositifs de financement du livre et des diverses manières dont vous-même, éditeur, programmateur, soutien de nombreux intervenants dans le champ de l'édition, vous participez à l'aboutissement de certains projets éditoriaux. Mais les intervenants qui sont à mes côtés, des acteurs privés, ils sont aux côtés de divers éditeurs, la DAGP dont j'évoquerai la politique puisqu'ils n'ont pas pu être parmi nous ce soir, la Fondation Ricard, lieu d'exposition, de rencontre, partenaire de très nombreux acteurs du monde de l'art représentés par Colette Barbier, sa directrice, que je remercie, un centre d'art, les Laboratoires de Verbillier, pour qui la politique éditoriale, je crois, constitue un prolongement des projets de recherche développés par les laboratoires, représentés par Alexandra Baudelot, qui en est co-directrice, je vous remercie également. Deux acteurs privés, invités au regard de leur politique éditoriale, c'est vous-même, messieurs. Bien évidemment, mais aussi et surtout compte tenu du sujet de cette table ronde, qui a trait donc aux capacités à construire des projets éditoriaux avec ingéniosité. C'est l'ingéniosité qui nous a invités à penser à vous. D'une part, B42, représenté par Alexandre Dimos, fondateur, cofondateur de cette maison en 2008, et vous-même, David Desmarais, qui représente les éditions Jean Boite. C'est bien ça?
C'est presque ça, c'est David Desrimais.
Desrimais, pardon. Enfin, j'évoquerai la politique du CNAP, établissement public, très investi au regard de nombreux éditeurs qui, du reste, pour plusieurs d'entre eux, sont présents dans ce salon. Merci à tous d'avoir répondu à notre invitation et je vous propose de vous présenter, de nous présenter votre action en matière éditoriale et surtout de nous préciser la façon dont vous intervenez et monter, soutenir, c'est cela, les projets éditoriaux que vous accompagnez. Colette Barbier, la Fondation Ricard, apporte son soutien à des éditions, contribue de façon récurrente à la très belle revue initiale. Que pouvez-vous nous dire de vos modalités d'intervention, de vos choix par exemple? Je note que nous retrouvons un certain nombre de titres sur lesquels nous nous retrouvons avec le CNAP et je m'en réjouis. Comment vous décidez de vos interventions et quelle en est la nature?
Alors déjà, l'ensemble de nos soutiens en matière d'édition sont très liés au programme de la Fondation. Il n'y a pas de hasard, mais en même temps, on est très généralement coproducteur, c'est-à-dire qu'on accompagne, on est très rarement à part sur deux projets dont je vais vous parler, on est toujours un soutien mais pour un artiste qui a déjà exposé à la Fondation Ricard ou en général c'est vraiment une continuité de notre programme qui se passe à la Fondation Ricard. Donc là je vous ai donné quelques exemples. Karina Biche, d'ailleurs j'ai vu que leur nouvelle toute petite maison d'édition était là et j'invite vraiment à les découvrir parce que c'est très intéressant, créée par deux artistes, donc Nicolas Chardon et Karina Biche. Donc là c'était vraiment pour permettre à ce livre d'exister. Donc on est souvent, très souvent, on est un premier soutien, c'est un démarrage, ça permet, souvent avec vous d'ailleurs, avec le CNAP, on se retrouve très vite en premier pour que les projets puissent se réaliser. Je vous ai apporté un deuxième exemple, Boris Achour, qui lui, lequel vous êtes également.
Nous sommes retrouvés.
Et Boris Achour, qui a eu le prix Fondation Ricard en 2000 ou 2001. Donc voilà, il y a une espèce de... C'est assez naturel, les soutiens assez naturellement la suite de ce que l'on fait à la Fondation.
Est-ce que ça veut dire que vous concevez cette politique éditoriale comme une forme d'accompagnement des artistes que vous invitez? D'accord, c'est un geste de plus au-delà de l'exposition éventuelle.
C'est exactement un geste de plus là où ils en ont vraiment besoin. Ça nous semble vraiment comme... Enfin, c'est le même soutien pour nous que de faire une exposition, de produire une œuvre. Et c'est pour ça que nous avons décidé de ne pas produire des expositions, des catalogues sur chaque exposition, mais plutôt d'accompagner sur des projets plus, plus globaux, plus généralistes, comme une monographie, plutôt que de se dire à chaque fois on va faire une exposition. La seule exception que l'on fait, c'est lors du prix, où là nous publions une petite revue à chaque fois sur les nominés du prix Ricard. Mais c'est la seule occasion.
Et juste avant de passer à la revue que vous avez sous les yeux et qui est remarquable, pour revenir à la politique éditoriale et aux livres que vous accompagnez, comment mécaniquement vous intervenez ? C'est-à-dire vous vous apportez, comme par exemple le Knapp le fait, une somme forfaitaire ?
Voilà,
vous
exactement. D'accord. Une somme forfaitaire.
Qui est plafonnée, qui n'est pas plafonnée, qui...
Vous savez, à la Fondation Ricard, on essaye toujours de ne pas être figé. Donc si on sent qu'il y a vraiment un besoin plus important, le montant attribué peut être un peu plus important, ou comme il peut être un peu moins important. C'est vraiment en fonction du projet à chaque fois. Et parfois, on est en fin aussi. Il manque un petit quelque chose. Donc là, bon, évidemment, on remet un peu.
C'est, vrai,
c'est vraiment une proximité avec l'artiste. À chaque fois, ça se fait à ce niveau-là. Et c'est vrai qu'on a lancé, d'ailleurs, c'est un petit peu différent, mais on a lancé une plateforme éditoriale qui s'appelle Textwork, où c'est des commandes de textes de fond sur des artistes de la scène française, mais plutôt là pour l'instant à des auteurs étrangers. Et c'est vraiment l'idée de mettre en ligne des textes en anglais, en français, et peut-être de mettre à disposition des futurs catalogues, des futures éditions sur les artistes, de mettre à disposition gratuitement ces textes.
D'accord.
C'est pas immédiatement imprimé, mais ça peut l'être.
C'est la gratuité qui vous fait sourire.
J'avais dit bonjour à quelqu'un.
Ah, pardon, bonjour. Donc, pardon. Donc, quant à la revue,
Vous
êtes très solidaire de ce projet, semble-t-il.
Oui, on est vraiment co-éditeur avec l'École des Beaux-Arts de Lyon. Donc, on avait été sollicité pour voir si nous étions intéressés à ce genre de revue qui met en avant une scène, une figure titulaire de ce milieu. Et en fait, pourquoi on est là, c'est parce que non seulement c'est une revue qui est faite dans une école, mais elle est faite par des graphistes à chaque fois qui sont liés à l'école. Elle est faite par des professeurs, les étudiants, et surtout elle est faite aussi avec des collaborations extérieures. Donc on aimait bien ce tissu, ce maillage d'intervention, et c'est ce qui nous a donné envie d'être à leur côté.
Et chaque numéro, je crois, fait l'objet d'un lancement
à la Fondation. Voilà, exactement.
Mmh. Et c'est vrai que je découvre en lisant, je le sais, mais en relisant quelques notes que j'ai sous les yeux, nous nous sommes retrouvés sur de nombreux ouvrages.
Oui, j'imagine.
Piste rouge de Marie Vaunier, récemment publié.
Charlotte Mott, je crois.
D'accord. Mmh. Donc ces ouvrages sont vendus également sur le site ?
Comment ces ouvrages sont vendus sur le site et sont vendus sur place à la Fondation Ricard, mais je ne vous cache pas qu'ils sont surtout offerts aux gens qui nous le demandent.
J'interviens. Le soutien dont vous parlez, c'est un soutien aux artistes, parce que vous aviez commencé dans la présentation à parler du soutien à l'édition. Et ici, du coup, comment vous concevez le rôle de la Fondation ? C'est directement via l'artiste ou il y a des coéditions, un travail avec les éditeurs ? Vous êtes vous-même éditeur, c'est ça que j'ai
pas suivi. Nous ne sommes pas éditeurs. On travaille soit avec des éditeurs, mais notre soutien, il passe souvent par l'artiste. Évidemment, il y a des maisons d'édition qui nous contactent en nous disant, on prépare un livre sur un tel, est-ce que vous pourriez apporter votre soutien ? C'est pas nécessairement par l'artiste, mais la finalité, elle est là. C'est pour que le livre puisse se faire.
Bien sûr.
Est-ce qu'on peut avoir une idée de l'économie que ça représente annuellement ? Ou bien c'est très irrégulier d'une année à l'autre, ce serait insignifiant de peu de choses ?
Je pense que c'est pas une question à laquelle j'avais pensé, mais je pense que c'est autour de 60 000 euros.
D'accord. Donc ça veut dire que c'est incident auprès effectivement des éditeurs qui nous écoutent,
oui,
et des artistes qui sont impliqués.
Mais c'est vrai qu'on intervient sur quand même de nombreux ouvrages. Si je peux rajouter juste un mot, là nous avons réalisé un livre aux éditions Flammarion pour nos 20 ans, ce qui nous a semblé que c'était peut-être le moment de faire un point sur ce qui s'était passé à la Fondation Ricard, mais pas seulement. Donc on a demandé à Michel Gauthier et Marjolaine Déby de faire un panorama de ce qui s'est passé en France pendant ces 20 dernières années, pas uniquement à la Fondation Ricard, mais dans les musées, dans les centres d'art. Et je vous invite à le découvrir. Il n'est pas encore sorti, mais je vous l'offre. Et
ben, je vous remercie.
Et vous me direz ce que vous en penserez après.
Merci. Alexandre Dimos, B42, une histoire d'eau particulière. C'est-à-dire que c'est une maison que vous fondez très tôt, enfin que vous cofondez avec un ancien collègue, je crois.
Oui, en fait, c'est une maison qui est une histoire qui commence quasiment à l'école, en fait, à l'école d'art de Valence, il y a 20 ans déjà, presque. Et en fait, elle a commencé par une pratique d'amateur, enfin, d'éditeur en tant que amateur. Et puis en 2008, on a décidé de professionnaliser, enfin de se munir d'un outil professionnel un petit peu plus sérieux pour pouvoir commencer un projet de maison d'édition.
Aujourd'hui, je crois que c'est une politique éditoriale qui se construit à travers trois collections, c'est ça ? Une collection plus directement liée au design graphique.
Alors, le premier but de la maison, quand on l'a créée en 2008, c'était effectivement de rendre disponible en français des ouvrages théoriques sur les questions du design, et plus particulièrement du design graphique et de la typographie, parce qu'il y avait un manque qui était très, un manque qui était très fort, en fait, en tout cas, sur de textes sur ces pratiques. Et ensuite, le catalogue a évolué. Et en fait, on a réellement nommé des collections que depuis l'année dernière, avec notamment la création d'une collection dirigée par Nicolas Telly, consacrée aux humanités numériques, qui s'appelle Esthétique des données, et une collection créée cette année sous la direction de Mathieu Cayet-Béabonhomme, donc qui est un artiste, et une collection qui s'appelle Culture.
Comment vivent ces différentes collections ? Est-ce que l'économie est la même ? Est-ce que, par exemple, la gestion du design graphique, il y a effectivement très peu de choses, et vous faites un travail de découvreur ou de traducteur tel que je le vois, qui me semble essentiel. Est-ce qu'il y a des économies qui sont spécifiques, par exemple, à cette collection-là, ou bien toutes vivent à peu près de pareille façon, connaissent les mêmes modalités de diffusion ? Comment vous les produisez ? Enfin, je sais que nous sommes quelquefois à vos côtés, mais précisément, puisque l'idée, c'est d'oser parler de financement et parler d'argent, comment vous arrivez, on vous a qualifié de... Tout à l'heure, on a dit que vous étiez ingénieux. C'est la raison de l'invitation qui vous est faite. Donc, comment vous mettez à profit cette ingéniosité pour permettre à l'ensemble de ces ouvrages, parce que finalement, il y a une somme importante d'ouvrages qui existent, comment vous les faites vivre ? Alors, avant de les faire vivre, comment vous les faites exister ?
Alors, comment expliquer ? Je vais essayer d'être un petit peu clair, mais effectivement, on est souvent soutenu par le CNAP. Mais on nous fait souvent remarquer, en tout cas, surtout les auteurs étrangers, on reçoit en ce moment un auteur qui s'appelle Michael Tosi, qui est un anthropologue américain. Et sa première réflexion, quand on l'a rencontré, il nous a dit « Mais je ne sais pas pourquoi je suis ici. » Dans le sens où les auteurs qui viennent de l'étranger sont souvent très surpris des dispositifs mis en place en France à la disposition des éditeurs. Parce que sa venue, notamment, est cofinancée par le Centre national du livre et par la Fondation Lafayette. Donc, en fait, nous, on passe notre temps à chercher de l'argent. Donc ça, c'est quand même une grosse partie du travail pour pouvoir financer nos projets.
Il semble que vous en trouviez, puisque les projets existent.
Alors, les projets existent, mais... on se rend compte, en tout cas on découvre au fur et à mesure, en s'intéresse à l'histoire de l'édition, que souvent les petites maisons d'édition ont des supports, ou en tout cas des financeurs qui sont dans l'ombre, entre guillemets. Alors ce qui n'est pas vraiment notre cas, mais on a le support d'un studio design graphique qui s'appelle De Valence, puisque moi je ne vis pas en fait de cette activité d'édition. Et la maison d'édition B42 a réussi à salarier quelqu'un il y a 3 ans uniquement. Donc en fait, c'est une activité qui reste, somme toute, assez précaire. Alors on profite d'un succès qui nous vient du Japon, qui fait suite à une résidence que j'ai moi-même effectuée à la Villa Kujoyama en 2012, où parmi la rencontre que j'ai faite, j'ai découvert un graphiste extrêmement connu là-bas, duquel on a traduit maintenant 3 livres. Le dernier livre s'appelle « Au cœur du caca », qui est un livre très sérieux sur le sujet. Et donc, ces livres-là ont rencontré un certain succès. Un des titres a été vendu à 5000 exemplaires, ce qui, à notre échelle, est énorme, en fait.
Donc, je comprends que c'est quelques titres qui permettent de financer l'essentiel d'études de la maison d'édition.
En fait, l'édition est une activité éminemment capitaliste, c'est-à-dire que pour gagner sa vie, il faut donc vendre des livres. Et donc, plus on vend nos livres, et plus on gagne d'argent. Donc, effectivement, il y a le premier but, c'est de faire les projets. Donc lorsqu'un projet rapporte un peu d'argent, il permet à un autre projet qui nous tient à cœur, mais qui a un public moins, rencontre public moins important, d'exister. Ce qui fait que tous les livres ne sont pas remboursés forcément.
Et quels sont vous citiez le CNAP, parce que c'est vrai que nous nous retrouverons quelquefois à vos côtés, quels sont les autres partenaires publics ou privés qui seraient dans une récurrence d'accompagnement de votre maison d'édition, si tant est que ce soit le cas ?
On s'est retrouvé aussi souvent avec la Fondation André Ricard, l'Union nationale du livre, le Centre national des arts plastiques. Et ensuite, on a beaucoup de partenariats avec des écoles d'art sur plusieurs projets, l'école d'art de Valence, l'école d'art de Rennes, l'école d'art de Toulouse, il ne faut pas que j'en oublie une. L'école d'art.
Ce que l'on comprend, c'est qu'il y a une économie publique qui est à vos côtés.
Complètement, oui. Oui, sur des projets.
Parce qu'hormis la fondation, ce que vous citez, c'est de l'économie publique. Du CNL, oui. Le CNAP ou les écoles d'art. C'est pour l'essentiel de l'économie publique. Sans celle-ci, aujourd'hui, vous pensez que vous n'arriveriez pas à produire les livres que vous produisez ?
Alors, sans ces aides, oui, je pense que le projet ne serait pas du tout le même. Et je pense qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. En tout cas, c'est certain. Oui.
D'accord. Des questions ou continuons ?
Alors, je vous invite aussi à écouter on peut écouter en podcast l'intervention d'Étienne Robert sur France Culture la semaine dernière, qui parle très bien de la question de l'économie au moment où il travaillait. Il a fondé sa maison d'édition.
Il a fondé sa maison.
Sa maison d'édition. Qui était Futuropolis.
Étienne Robial, pardon, qui a fait don, ça n'a aucun rapport avec l'édition, mais tout le travail qu'il a fait pour Canal+, et qui est rentré dans la collection nationale du CNAP, puisque nous avons hérité de l'ensemble du travail qu'il a fait pour Canal+, il nous en a fait don. Deux mots sur la DGP qui n'est pas parmi nous. Donc, pourquoi citer la DGP ? Parce que c'est une société de droit qui est très présente au regard des éditeurs, présente financièrement, avec des dotations qui viennent accompagner des premières monographies et qui s'élèvent à 15 000 euros, ce qui est par exemple plus important que chacune des interventions CNAP à chacun des éditeurs accompagnés. Donc c'est une aide importante que la DGP produit. Nous nous retrouvons également, mais c'est peut-être le cas également de la Fondation, sur quelques titres. Je vois par exemple L'État Monero est un ouvrage qui a été édité récemment par la galerie Thomas Bernard, quant à Synthetico, qui a bénéficié d'une aide de la DGP et d'une aide du CNAP. Ça vaut pour d'autres titres. Je pourrais citer également Christiane Paulet, Alex Delmas, qui a été publié par le Bordelot et qui a bénéficié d'une aide de l'AGP. La DGP intervient à cet endroit-là au titre de l'action plurielle qu'elle doit porter, et c'est dans ses statuts. Pour information, nous sommes également partenaires de cette société de droit qui nous permet d'accompagner un projet dont nous sommes porteurs, qui s'appelle Suite, et qui vise à présenter dans quelques espaces moins importants que les grands centres d'art que nous connaissons, quelques projets d'artistes qui ont bénéficié d'une aide à la recherche du CNAP. Donc la DGP est aux côtés des éditeurs, mais également aux côtés de certains projets d'exposition tels que celui que je viens de citer. Alexandra Baudelot, Laboratoire de Bervilliers, comment vos projets éditoriaux permettent d'accompagner vos projets programmatiques en règle générale, comment vous les construisez? Je crois savoir que vous êtes très lié à quelques autres maisons internationales, en tous les cas un souci de voir comment ces projets existent à l'étranger. On a peu parlé de traduction, comment la chose existe.
Et on a peu parlé des auteurs aussi, mais ça, je pourrais en préciser, en ajouter deux mots. Mais comme vous l'expliquiez en introduction, effectivement, les livres sont pensés dans la continuité des projets artistiques. Ils peuvent être le projet artistique aussi en tant que tel, des artistes qui sont donc présents au laboratoire. Peut-être deux mots sur la manière dont on fonctionne au laboratoire. C'est assez particulier et en lien du coup avec la production des livres. On accueille des artistes pendant une durée assez longue, plusieurs mois, qui développent donc des projets qui prennent des formes extrêmement différentes, qui peuvent aller de la performance au livre, au spectacle, au séminaire. On est un lieu aussi pluridisciplinaire, donc on accueille aussi bien des artistes plasticiens visuels, des chorégraphes, des écrivains, des chercheurs en sciences humaines, la littérature. Donc je fais ce préambule parce que c'est vrai que du coup ça déploie toute une palette de typologies d'éditions très très différentes.
Est-ce que vous, par exemple, explicitez ou donnez deux cas de figure d'objets très spécifiques?
Alors j'ai amené plusieurs exemples ici qu'on évidemment on peut pas voir à la radio, mais par exemple ça c'est ce qu'on a, on a sorti beaucoup de livres cette année, on en a sorti à peu près 5 ou 6. Donc dans l'ordre, il y a ce projet de, des artistes visuels Sylvia Maglioni et Graham Thompson qui ont été en résidence au laboratoire pendant 3 ans et qui ont fait ce multiple. Donc on fait rarement des multiples, mais là c'était vraiment un désir de, des artistes, qui s'appelle, c'est un jeu de tarot lié au cinéma qui s'appelle Dark Matter Cinéma Tarot. Et ça, c'est un objet qui a été produit grâce à du mécénat. Donc, c'était une mécène en particulier qui l'a produit. Donc là, on est vraiment dans un financement totalement privé.
Donc là, c'est quelque part une résultante de la résidence au labo.
C'est une des résultantes parce que comme ils sont restés 3 ans, il y a eu énormément d'événements d'ouverture publique qui allaient de projections de cinéma nocturne à des tirages de tarot à une exposition. Voilà,
j'ai plutôt le sentiment de voir une boîte. Donc comment ça existe, par exemple, en matière de diffusion? Comment vous faites pour faire en sorte que cet objet, qui est plutôt une boîte, si je...
Alors, c'est une boîte, mais à l'intérieur de la boîte, il y a un jeu de tarot.
Boîte, il y a un jeu de tarot. Donc, comment ça existe économique, enfin, en matière de diffusion, par exemple?
Alors, en matière de diffusion, c'est un objet qui a été édité par les laboratoires, qui a été soutenu par le Mégo, donc, qui était présent, je crois, hier sur Radio Du. Donc le Mégo diffuse, ils ont un certain nombre d'exemplaires, c'est tiré à 300 exemplaires, ils diffusent cet objet, ça veut dire qu'ils en ont une trentaine à peu près, donc eux le vendent. Ensuite, les artistes en ont aussi, on leur a donné une centaine d'exemplaires, et le reste, c'est les laboratoires qui le vendent. Et ce qu'on vend, comme on est dans la logique d'un multiple, on fonctionne comme dans une galerie, par exemple, qui vend une œuvre, c'est-à-dire que 50% revient à l'artiste et 50% au laboratoire. Donc là, on est vraiment dans une logique assez multiple, mais qui n'est évidemment pas du tout la même sur les autres livres, puisque, par exemple, on avait fait ce livre, Zarba Lonza, avec Katinka Bock, que d'ailleurs la Fondation Ricard a soutenu aussi financièrement. Ça aussi, c'est un résultat assez particulier, parce que là, donc, Katinka Bock est artiste plasticienne, qui a fait un projet pendant 1 an en résidence au laboratoire, qui a donné lieu à une exposition. À la suite de cette exposition, de ce projet, elle a déployé d'autres étapes, une au Canada et une à Londres, en Angleterre. Et donc, ça a donné lieu à ce livre que les laboratoires ont coédité, qui est un livre qui a été publié par un éditeur étranger qui se trouve à Anvers, qui est maire Paper Kunsthalle. Donc, qui est vraiment un livre aussi représentatif de la dimension internationale du projet, et donc avec des économies multiples, c'est-à-dire à la fois un financement de l'éditeur qui a fait tout le graphisme, qui a assuré une certaine partie des relectures, un financement privé, donc avec la Fondation Ricard, et évidemment aussi un financement des laboratoires. Et en ce qui concerne notre partie, donc un financement aussi des auteurs, parce que nous on paye tous les auteurs, et on les paye soit sur le financement du livre, soit sur le financement des projets artistiques.
Vous êtes insistant sur le fait de payer tous les auteurs, ça veut dire que certains d'entre nous ne les paieraient pas, je crois que nous sommes tous très attentifs à la rémunération des auteurs.
Faites très attention.
En tous les cas, pour ce qui est du Centre National des Arts Plastiques, les aides que nous attribuons sont données après vérification, que l'ensemble de ceux qui participent de la chaîne du livre soient tout à fait rémunérés, qu'il s'agisse des graphistes et des auteurs, des traducteurs. Alors jamais avec autant, il n'y a pas de règles qui seraient les mêmes, mais en tout cas, il y a une véritable attention à ce que chacun de ces points soit examiné. D'autres exemples?
Oui, alors un autre exemple, Itinérance, c'est un livre qui vient de sortir aux éditions Divergence. Divergence, c'est vraiment un éditeur très très indépendant, on va dire, qui est sur une ligne politique, sciences humaines, activiste. Ce livre, c'est le résultat aussi d'un projet qu'on a accompagné pendant 3 ans avec un psychologue praticien qui s'appelle Joseph Raffanel Iora, donc qui a édité le livre, qui a coordonné tout le suivi éditorial. Et là, c'est vraiment un livre que les laboratoires ont entièrement financé, parce que parfois, on se retrouve aussi dans des logiques financières qui font que Divergence n'est pas en mesure de faire des demandes spécifiques pour des subventions. C'est un projet très particulier aussi, donc difficile à financer. Et ça s'inscrivait pleinement dans la continuité de ce projet qu'on a développé pendant 3 ans. Donc pour nous, c'était une sorte de résultat aussi de cette résidence, de résultat visible, de traces et de réflexion aussi sur ce qui a été posé, développé pendant ces 3 ans à travers un grand nombre d'invités. Donc là, on est plus dans le registre des sciences humaines et à un niveau aussi à la fois d'édition et de typologie, on va dire, d'intervention différent des arts visuels ou de la danse. Autre exemple, où je peux m'arrêter.
Non, je vous en prie. La question que j'allais vous poser, c'est la question relative à la collection. C'est-à-dire quand je vois les quelques 7, 8 avec la revue, le journal, pardon, objets qui sont face à nous, j'ai pas le sentiment de voir quelque chose qui fait collection. J'ai le sentiment de voir autant d'objets qui sont la résultante de politique d'exposition, de résidence. Et sur ces sujets, mais c'est plutôt à votre adresse, la question de la collection, est-ce que c'est un sujet, c'est pas un sujet, comment vous traduisez, est-ce que c'est pour vous une question que de se dire, il est important d'inscrire un titre dans une collection qui, y compris formellement, peut quelquefois avoir des signes graphiques récurrents. Enfin, quand je dis ça à l'instant, je repense, il se trouve que c'est pas très récent, mais je pense à la puissance de ce qu'avait pu faire à une certaine époque le CAPC, voir la Villa Arson, qui avait souhaité être dans une typologie éditoriale très précise, avec un véritable souci graphique, une inscription de livres très différents, de par les textes, de par les contenus, mais avec une identité très marquée. Est-ce que ça, c'est des sujets qui vous intéressent, ou est-ce que vous n'êtes pas du tout dans ces questions-là?
Tu veux que je réponde?
Moi, je peux répondre d'une partie. Alors, c'est très difficile de dessiner, il me semble, des collections quand on manipule des contenus qui appartiennent à des artistes qui ont souvent des exigences qui leur sont propres, et aussi parce que les projets peuvent être très singuliers. En revanche, nous, on s'est posé la question de la collection lorsque il était question de définir un cadre dans lequel des textes allaient rentrer, en fait, pour que le lecteur, nos lecteurs puissent identifier le type de textes qui sont diffusés, qui sont transmis, et aussi parce que c'est que très récemment qu'on a accueilli des directeurs de collection qui étaient, on va dire, extérieurs à la maison d'édition en quelque sorte.
De notre côté, pardon, David Derimet, Jean Boîte Édition, on va y revenir quand on parle de la maison, mais c'était essentiel de faire des collections pour le coup. C'est-à-dire la maison elle-même est née quasiment sur une idée de faire que des collections, de sorte que les objets que l'on produit, quelle que soit leur particularité et leur grande singularité, finissent quand même par s'inscrire dans un contexte qui se familiarise, qui devient familier pour ceux qui les fréquentent.
Il y avait concrètement, quand je vois cet ouvrage qui est devant nous, comment s'appelle-t-il, Google, c'est ça?
Tout à fait, Google volume 1.
Ça veut dire qu'il y a un volume 2, ça veut dire qu'il y a un autre objet qui est dans 2. Le même format qui est...
Alors, et suite à ce que je viens de dire, Google, il est hors collection.
Ça veut
dire qu'on a aussi passé notre temps à produire des ouvrages, évidemment,
bien sûr, qui est à faire collection et biaiser nous-mêmes. Voilà.
Mais l'idée, je vais y revenir peut-être tout à l'heure quand on parle de la maison.
Mais allons-y, parlons de la maison. Donc, comment la chose existe alors? Vous revenez sur votre histoire, sur ce qui vous a motivé, sur...
Très, très brièvement. En tout cas, effectivement, la maison naît en 2011. Elle est cofondée, elle est toujours co-dirigée par Mathieu Sénac et moi-même. Et l'idée centrale était de produire des livres, parce que c'est notre savoir-faire, qui créent le pont, qui font le pont entre l'écran et nos bibliothèques. En tout cas, on était à un moment, donc 2011, où derrière l'écran, c'est le grand moment des Tumblr, c'est un peu avant les réseaux sociaux qu'on connaît aujourd'hui, qui nous sont familiers, mais c'est beaucoup d'images, beaucoup de circulation, beaucoup de flux à l'écran, et parfois, le choc de se dire, la qualité de ce que je vois là mérite de fréquenter les livres que j'aime et que j'apprécie dans nos bibliothèques. La bibliothèque étant l'élément un peu central de notre... de la maison, et puis aussi de notre construction mentale. Donc, se dire, nous allons produire les ouvrages qui manquent à nos bibliothèques, était la première idée. Et on s'est dit tout de suite, ce qui serait intéressant, c'est de faire des collections qui seraient en réalité des boîtes à l'intérieur desquelles on inscrivait les livres. Et quand la boîte est pleine, le sujet est clos, ce qui permettait de faire des collections qui, dès le début, étaient des formats ouverts et fermés. Bien sûr, on a passé notre temps à faire des livres hors collection. Néanmoins, j'ai pris celui-ci, donc, qui s'appelle Google Volume 1, que j'ai devant moi et je vais rapidement décrire pour être plus précis. C'est un livre qui est fait par deux jeunes artistes anglais, donc c'était le projet de fin d'études, qui ont pris le Oxford Dictionary et qui ont remplacé tous les mots et leurs définitions par leur première réponse dans Google Images. Donc un ouvrage très iconique. Il a été fait en 2013, qui est du coup un collage de 24 000 images en colonnes dans l'ordre alphabétique des mots d'origine, avec cette supposée objectivité qu'on prête au moteur de recherche dans ses premières réponses, en tout cas supposées pertinentes. Donc voilà. Je passe un peu sur la création de la maison, mais on pourra revenir sur son financement. Ce qui est sûr, c'est qu'on était très bouleversés par ce projet, quand il nous semblait essentiel qu'il existe en livre et qu'il intègre nos bibliothèques et autant que possible les vôtres. Et du coup, s'est posé pour la première fois très frontalement la question, le problème de son financement. Puisque pour en imprimer 1000, il fallait trouver 20 000 euros.
En fait, pour décrire l'objet quand même, il fait quoi? Il fait 20 cm sur 30, 2 à 3, donc combien?
4 kilos.
4 kilos,
1400 voilà. Pages.
Imaginez 4 kilos, 1400 pages, quadrilles. Voilà, des images. Donc, comment ça existe économiquement?
Une dégoulinade d'images. Alors,
ça, je vous laisse.
C'est la première fois que, précisément. Alors, au début, avec mon cofondateur et co-associé, nous avons injecté une petite somme d'argent pour faire le premier livre, qui était le livre qui a permis de lancer la maison d'édition, qui s'appelait The Nine Eyes of Google Street View, qui est donc une collection d'images très spectaculaires de photographies. Sauf que ces photographies avaient été prises dans Google Street View, ce système de Google qui permet de regarder, de se balader un peu dans le monde. Donc c'était très intéressant. C'est un livre qui a marché, qui a payé le suivant, et uniquement donc par les ventes du premier. Et puis ensuite, il a été question de faire celui-ci. Et là, on était un petit peu coincé parce que, comme je vous ai dit, rien que l'impression coûtait plus de 20 000 euros. C'était une somme que nous n'avions pas. Et donc, c'est à cette occasion que nous nous sommes adressés au CNAP et que nous avons obtenu une aide qui, pour le coup, et très clairement, a été décisive dans la fabrication de cet objet. Sans quoi, il n'y avait pas d'objet. L'aide en question était d'un peu plus de 9 000 euros. Donc, c'était extrêmement précieux.
Et en l'occurrence, c'était le début de la maison.
C'était deux ans après le début de la maison.
Deux ans après le début de la maison.
Mais alors l'histoire est amusante, j'ai pris celui-ci parce que c'était aussi la rencontre avec la DAGP. Une toute autre rencontre, puisque lorsque le...
Décidément, on retrouve les mêmes à plusieurs endroits.
N'est-ce pas? Mais vous allez voir, c'est un peu différent. Puisque lorsque le livre sort, son principe même, donc il a été mécanisé, c'est la première réponse dans Google Images, qui est mise comme ça en colonne, et aucune de ces images, bien sûr, n'a fait l'objet d'une négociation liée à ses droits, les droits d'utilisation. Ce qui nous a paru... on y est allé parce qu'on était tout petit, on y est allé aussi parce que ça nous paraissait nécessaire de faire cet ouvrage et que le travail de ces artistes, le collage de ces 24 000 images, fait œuvre et pas l'exploitation commerciale de chaque image pour elle-même. Sauf que certaines de ces images sont soumises à des droits. Donc, à cette occasion, nous rencontrons la DHCP qui nous dit « Fournissez-nous la liste des sources de chaque image et on verra ce qui relève de notre compétence. » C'est-à-dire ça, cher ami, c'est impossible. Et du coup, quelques mois plus tard, ils nous ont envoyé une facture. Donc, quelqu'un chez eux travaille. Et ils ont trouvé trois images qui, pour le coup, relevaient effectivement de leur compétence. Et nous avons bien sûr acquitté les droits de ce livre. Ce qui était intéressant dans cette aventure, c'est qu'on n'est pas du tout parti avec le drapeau pirate en étendard. On est parti avec l'envie de produire l'objet qui permettait d'arrêter ce moment, d'arrêter le flux, et de se dire, voilà l'état du monde, le dictionnaire passé au tamis de Google Images par l'œil de ces deux artistes. Qui ont été payés, qui sont les auteurs du livre, qui ont 8% sur chaque exemplaire vendu, et qui me paraissait nécessaire de produire ce livre. Sauf que n'importe quelle maison d'édition installée, ce serait interdit, évidemment. Donc voilà, la petite histoire pour ce livre-là, elle est celle-ci. Ce qui s'est passé dans les années d'après, c'est que nous n'avons plus, même, il n'y a plus eu de financement public dans la maison d'édition. C'est-à-dire que ça a permis, le CNAP en l'occurrence, a permis l'existence de cet ouvrage. Cependant, le travail que nécessite la construction des dossiers, le suivi et, je dirais, la mécanique aussi de la recherche de ces financements n'a plus ensuite été, comment dire, n'a plus d'importance dans le...
Est-ce que l'on doit comprendre qu'aujourd'hui, vous avez construit une économie qui vous permet d'autofinancer les ouvrages que vous produisez, puisque sur le stand, dans ce qui se passe un peu plus loin, on voit plusieurs titres, ils existent bien, ça veut dire que vous avez trouvé vous-même... une économie qui vous permet aujourd'hui de produire ce que bon vous semble, c'est
tout
ça?
Tout à fait.
Ça veut dire que vous produisez, vous vendez, vous alimentez une maison d'édition qui, économiquement, je dirais, est saine, stable.
Elle l'est.
Satisfaisante.
Ah, c'est pas satisfaisant, mais c'est, en tout cas, ça existe, ça continue. L'astuce, si c'en est une, en tout cas, la démarche a été depuis ces années-là, 2012-2013, et aussi à partir de ce livre-là, qui a quand même connu un succès critique très important, notamment à l'étranger, puisque c'est un livre du coup dans lequel il n'y a plus de texte. Donc c'est un livre qui fait, comment dire, un travail de médiation très international. À partir de là, nous sommes entrés dans un principe systématique de distribution et de diffusion hors de France. Donc aujourd'hui, la maison d'édition travaille avec 5 diffuseurs et distributeurs qui couvrent environ une quinzaine de pays. Et c'est parce que on produit plus d'exemplaires pour couvrir tous ces territoires que l'économie de la maison fonctionne. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la France, par exemple, ne représente qu'à peine 20% du chiffre de la maison.
JB42, comment vous fonctionnez en matière de distribution-diffusion ?
Alors, dès la mise en place du projet en 2008, il était évident qu'on ne pouvait pas travailler sans un partenaire, un diffuseur-distributeur. Donc, on travaille avec les Belles Lettres qui assurent la partie diffusion et la partie distribution. Mais peut-être c'est important de rappeler, si on imagine un camembert ou un rectangle, un bâton de cadéré, en fait, comment ça se découpe ? Parce que récemment, j'ai pu entendre en fait, ou voir des choses assez aberrantes sur comment sont réparties les ventes des livres, ou alors qui a sa part du gâteau, en fait. Donc peut-être que c'est bien de donner des chiffres.
Oui, enfin,
en tout cas, lorsqu'on est dans un réseau très professionnel, on est entre 20 et 22% pour le diffuseur et le distributeur. 38 à 40% pour le libraire, ce qui reste,
oui,
il reste 30% à peu près donc pour l'éditeur qui répartit ensuite cette somme vers le traducteur, l'imprimeur, le designer, le relecteur, et ensuite il y a les 6 à 10% pour les auteurs. Donc on ne va pas faire de calcul précis, mais disons que c'est quand même une économie très très précaire, quoi. Et j'étais curieux de savoir combien d'exemplaires vous aviez vendu du Google, d'ailleurs.
On a vendu tout le tirage, qui était un tirage de 1000.
D'accord.
Qui est donc un tirage qui est à la fois limité et pas si limité. C'était un livre qui, malgré les calculs, on estime la théorie de l'édition, c'est que le coût de production d'un livre, on devrait le multiplier par 6 pour établir son prix de vente correct qui permette plus ou moins de vivre. C'est une théorie vague, mais enfin c'est quand même le chiffre qui, sur lequel on s'accorde.
La théorie en matière économique, c'est qu'une fois qu'elle se gueule.
Non, mais vous voyez l'idée en tout cas.
Celle-ci.
Vous voyez l'idée. Sauf que celui-ci, si on faisait ça, il fallait le vendre 170 euros. L'autre intérêt de l'aide, évidemment, c'est qu'en remontant le budget avec l'aide, on pouvait descendre le coût à 95 euros, ce qui n'est pas donné, mais ce qui permet quand même d'établir un prix de vente très inférieur à ce qu'il aurait dû être si on avait été tout seul et s'il avait fallu rentrer dans ses frais de production.
Pour revenir sur la diffusion, pardon.
Oui.
Vous évoquiez 4 diffuseurs.
Oui.
Ça veut dire que ces 4-là, vous les choisissez en fonction de cibles géographiques, de typologie de marché, comment vous faites ? Et vous-même, B42, qu'un seul, c'est ça ?
Non, on travaille avec ID Books aussi.
D'accord, donc un sur l'étranger, ID Books, et pour le reste, sur la francophonie
Sur la francophonie, oui.
Ce sont les deux. C'est une question de territoire, mais c'est aussi une question... les diffuseurs avec lesquels on travaille ont tous pour particularité d'être des spécialistes du livre d'art. Le livre d'art, pour nous, a ceci d'intéressant que, en tout cas son mode de distribution a ceci d'intéressant que prenez les États-Unis, par exemple, pays dans lequel l'état de la librairie indépendante est sinistre. Il n'y a pas de loi langue aux États-Unis, donc il n'y a pas de prix fixe du livre, ce qui fait qu'on peut vendre le même livre à un endroit $5 et à un autre $40. Et que le prix fixé par l'éditeur n'est pas suivi, en tout cas n'est pas un prix fixé pour le coup. Du coup, très peu de petits libraires, puisque les plus gros ont mangé la chose. En revanche, il y a beaucoup de musées, et dans tous ces musées, il y a des librairies. Du coup, l'état de la distribution du livre d'art aux États-Unis reste extrêmement dynamique, extrêmement vif.
Facilité par ces lieux de...
Bien sûr, tout à fait. Et par le fait que chaque musée entretient... C'est plus tout à fait des librairies, d'ailleurs. C'est des sortes de stores avec un peu de design, un peu de livres, etc. Mais quand même, qui sont des endroits de vente très dynamiques. À l'intérieur desquels, le distributeur, lui, pour le coup, couvre du coup une zone aux États-Unis considérable et à l'intérieur duquel nous pouvons proposer des ouvrages un petit peu déroutants, c'est-à-dire un petit peu les livres issus d'Internet qui sont ni du design, ni de la photo, ni je ne sais pas quoi.
Musée Centre d'Art, à nouveau les laboratoires. Comment faites-vous pour diffuser vous-même ? Vous utilisez les éditeurs eux-mêmes, comment faites-vous?
Si le livre est coédité, on s'appuie sur les diffuseurs de la maison d'édition. S'il est édité par les laboratoires, ce que j'ai pas mentionné, qu'on avait aussi certains livres sont intégralement édités par les laboratoires, et ce depuis un an. Donc si c'est le cas, on est diffusé par les presses du REL. Avant, on était diffusé par Édition et malheureusement, ils ont déposé le bilan. Donc, tout le monde s'est retrouvé, beaucoup en tout cas, chez les présidents.
Oui, c'est effectivement un nom qui revient.
Oui.
Et vous êtes satisfait de la façon, de la lisibilité de ces différents ouvrages ou...
Alors, c'est très variable en fonction de ces objets, parce que c'est tous des objets en fait un peu bizarres, ce que permet aussi d'une certaine manière.
Enfin, formellement, il n'y en a qu'un de bizarre.
Non, formellement, ça va. Ils ont la forme d'un livre avec des pages.
Ce que vous qualifiez de bizarre, c'est quoi?
C'est
les auteurs,
le projet en tant que tel. Par exemple, on se retrouve avec des chorégraphes qui écrivent, dont le projet au résultat, c'est d'écrire des livres qui prennent la forme à la fois d'une étude sociologique, d'une sorte de fiction littéraire et poétique. On se retrouve avec des écrivains qui, au contraire, font des objets qui ressemblent presque à des poèmes chorégraphiques. Donc en fait, à chaque fois, ça génère des objets relativement inclassables dans les librairies.
Et donc qui demandent, j'imagine, un accompagnement particulier.
Qui demandent un accompagnement particulier de la part des éditeurs, donc de avec qui on coédite, et de nous-mêmes, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de libraires suivent aussi ce qu'on fait, parce que justement, ils s'intéressent beaucoup à notre politique éditoriale, qui essayent quand même d'être au plus près des projets artistiques que les artistes développent et qui donc souvent font un pas de côté par rapport au format habituel qu'on peut retrouver, type sciences humaines, art visuel, art plastique, etc. Mais parfois, c'est vrai que ça pose certains problèmes auprès des libraires de savoir où est-ce qu'ils peuvent indexer les livres dans les rayonnages.
Colette, vous n'avez pas de soucis, ce sont en fait les éditeurs qui diffusent.
Exactement, mais on fait quand même attention quand on décide de soutenir un livre, de s'assurer qu'ils ont pensé à la diffusion, parce qu'il y a beaucoup de livres qui sont édités par des gens qui ne sont pas éditeurs et qui restent évidemment dans les cartons. Et nous, tous ceux, évidemment, ça par exemple, enfin, initial, c'est diffusé par les presses du réel, et puis après, en fonction de chaque diffuseur. Et nous, on s'occupe de la diffusion gratuite, c'est-à-dire qu'on essaye de
promouvoir.
De promouvoir avec l'artiste ou avec le lieu, de se dire, bon, ben nous, on va prendre en charge ces envois qui ne sont pas négligeables.
Il nous est, pardon, pour rebondir là-dessus, effectivement, il nous est arrivé de travailler avec des institutions pour lesquelles il était important, il était du coup la clé du projet, de pouvoir le distribuer largement.
Bien sûr. Donc,
c'est partie de notre bonne entente, de dire, bon, on vous accompagne à faire un bel objet, mais aussi ce bel objet, on lui ouvre un espace commercial qui sort en France, qui est très solide. Nous, on travaille avec Interin, une très belle maison de distribution que vous connaissez sûrement, qui est là depuis 30 ans, qui distribue tous les livres d'art étrangers. Donc c'était un peu curieux au début de se retrouver pour distribuer les nôtres, mais aussi du coup pour pouvoir ouvrir. C'est souvent la clé dans le financement du livre et dans ce qui déclenche les partenariats, notamment les partenariats privés, parce que ça n'intéresse pas les financeurs publics.
Quoique, si je rebondis, si je vous informe de 2-3 mots relativement au CNAP, c'est un souci important que la diffusion, c'est-à-dire que nous soutenons des projets sous réserve qu'ils soient distribués. C'est-à-dire qu'il y a des attentions, je l'ai dit au tout début, évidemment des enjeux de contenu, mais les projets soutenus doivent pouvoir bénéficier d'une diffusion telle que l'objet ne restera pas dans les cartons ou à la rigueur d'une galerie ou d'un centre d'art, mais connaîtra un public ou des publics avec les réseaux, des réseaux très très divers, puisqu'on est aux côtés d'éditeurs et face à des projets qui sont très très spécifiques les uns des autres. On voit d'ailleurs face à nous ces différents stands et on voit la diversité qui est sous nos yeux, et nous nous retrouvons en tant que CNAP auprès de partenaires très très diversifiés. Simplement deux trois chiffres s'agissant de l'établissement public qui est le nôtre. Ça représente l'aide à l'édition, une somme de l'ordre de 240 000 euros, c'est-à-dire un peu moins du quart de l'ensemble des aides que nous distribuons au titre de dispositifs de soutien, puisque nous sommes présents aux côtés des éditeurs, je viens de le dire, également des galeries pour des présents de fois à l'étranger, des artistes, projets de recherche. Nous sommes présents pour soutenir des projets portée par des photographes dans le cadre de photodocumentaires, auprès de restaurateurs, on a tous un ensemble de dispositifs de l'ordre d'1,2 million. Et l'aide à l'édition, c'est donc un volet important de notre soutien, puisque 240 000 euros, je crois 237 000 euros, 930 en 2018, pour être exact, permettent d'accompagner une petite quarantaine de projets, 36, et c'est à peu près le volant de projets aidés d'une année sur l'autre. Ça fait de nous un acteur récurrent, et pas seulement auprès des mêmes éditeurs, parce que c'est vrai, je vous regarde, nous sommes retrouvés souvent à vos côtés, vous, B42.
On profite de des deux livres que nous pouvons déposer chaque année, ça c'est certain.
Et si vous ne pouvez en déposer que deux, c'est parce qu'on est soucieux de ne pas être tout le temps ou seulement aux côtés des mêmes. C'est-à-dire que le TNAP, et ça vaut à la fois pour nos dispositifs de soutien, ça vaut, et ça va de soi pour nos politiques d'acquisition, on est soucieux d'accompagner des artistes, des maisons d'édition dans des phénomènes de durée, et aussi soucieux, inévitablement soucieux, désireux, d'accompagner des premiers projets. C'est-à-dire, vous le citiez, c'est le TNAP qui vous a permis de lancer ce premier ouvrage, donc il fallait bien démarrer. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on continue à être aux côtés de nouvelles maisons d'édition qui viennent vers nous pour faire exister des projets éditoriaux spécifiques. Mais effectivement, la question de la diffusion est un élément essentiel.
Mais peut-être, on faut peut-être préciser ce que ça veut dire diffusion, parce que ça peut être très dans l'imaginaire de certains partenaires ou des auteurs. Donc, ils ont une volonté que leur projet, leur pensée, leur livre soient bien diffusés. Mais la diffusion, en fait, c'est d'abord une équipe de représentants, de commerciaux, qui représentent un certain nombre d'éditeurs et qui eux-mêmes vont voir à travers la France les libraires, présentent le catalogue, présentent les projets. Et en tout cas, en ce qui nous concerne, c'est le libraire qui choisit les livres qu'il va recevoir. Donc, c'est-à-dire que si le libraire décide de ne recevoir qu'un exemplaire, il n'aura qu'un exemplaire. Donc notre diffuseur-distributeur n'impose pas d'office des livres aux libraires. Donc en fait, la diffusion dépend bien sûr de la compréhension du libraire, du travail qui est fait par l'éditeur. Donc il est très clair que, et nous on en a pris conscience il y a quelques temps,
qu'il faut... Vous êtes présent sur combien de librairies par exemple ?
Je ne peux pas les quantifier, ça dépend aussi des projets,
ça dépend des titres.
Voilà, des libraires qui ont un rayon d'art contemporain, d'architecture, d'autres qui n'en ont pas. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'en tant qu'éditeur, on ne peut pas se contenter du diffuseur qui va voir le libraire. On a aussi une mission à expliquer au libraire quel est notre travail, notre projet, en fait, en quelque sorte.
Juste, d'autant qu'en réalité, hors de contexte comme celui-ci, dans une foire, on ne voit jamais les lecteurs, les acheteurs finaux des ouvrages et des livres. L'éditeur, ou en tout cas à ce stade-là du travail, n'est en contact qu'avec d'autres intermédiaires qui, eux, vont aller en contact d'autres intermédiaires. Donc, on est en contact avec nos diffuseurs, que l'on essaye de former à nos ouvrages et d'être le plus clair possible, qui eux-mêmes vont tenter de le défendre auprès des libraires, qui eux-mêmes vont tenter de le vendre aux lecteurs à la fin. Donc il y a quand même une chaîne après l'éditeur qui est encore très considérable en effet. Donc il y a un travail de médiation très important qui passe aussi par un travail de relations de presse, qui passe par plusieurs canaux comme ça qui peuvent ensuite converger. Mais effectivement, la précision est intéressante parce que dans cette économie, il y a une dilution très 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 importante du message entre le moment où on travaille avec l'auteur et les artistes et le moment où il se retrouve dans la main des lecteurs, encore une fois hors de contexte comme ici, où on est enfin et pour une fois au contact avec les lecteurs.
Colette, oui.
Nous sommes en ce moment en plein prix littéraire. Est-ce que dans les livres d'art, il y a des prix qui sont très importants pour vous et qui, où vous savez que systématiquement, les livres seront repérés et un peu mieux vendus ou distribués ?
La légitimation des titres grâce au prix pas littéraire.
Oui, au prix. Est-ce qu'il existe des prix ou quels sont-ils ?
Il n'y a rien qui me vient spontanément.
Il y a le FILAF.
Le prix du FILAF. Oui.
Bien sûr, le FILAF, mais c'est un très beau prix qui est d'ailleurs... C'est un bel endroit, le FILAF.
C'est un
travail magnifique. C'est un prix d'honneur, quand même. C'est-à-dire que ce n'est pas un déclencheur...
Non.
C'est un impact économique. La question est très directe.
Oui, mais la réponse est non, très directe. Je ne pense pas. Ils ont aussi la qualité de faire des choix souvent très exigeants, très, très précis. Le jury permet de faire quand même émerger peut-être des choses qu'on aurait moins vues. Est-ce que ça a un impact économique réellement ? c'est très difficile à dire, mais ceci dit, sur la même question de l'impact économique, il nous arrive d'avoir une pleine page dans Le Monde et de à peine voir la courbe vaciller. Non ?
Alors nous, on a eu la chance d'avoir
heureuse expérience,
une publication dans Le Monde papier et le même jour sur Le Monde électronique, et on a clairement vu les conséquences sur les ventes du livre. Mais c'est arrivé qu'une seule fois.
C'est parce que le livre est bon.
Ah oui.
Non, mais en revanche, sur les prix, moi, j'ai pas connaissance de prix qui font, en tout cas, qui font basculer les ventes. Honorifique, oui, en termes de réputation et de qualité, ça, c'est sûr. Le Filaf, par exemple. Mais sur les ventes, non, je pense à rien de partir.
J'avais une question relative, pour revenir à l'économie des différents projets, qui tiendrait à un constat qui serait la stabilité des financements publics, CNL, CNAP et autres partenaires, et constater dans le même temps la variété des projets éditoriaux qui naissent ça et là. Comment vous lisez ce qui pourrait apparaître a priori comme contradiction ? C'est-à-dire qu'il y a d'un côté une stabilité d'argent public, d'un autre côté plus de projets très divers qui, semble-t-il, construisent des économies qui leur sont propres. Donc ça, ce serait une vision plutôt positive, de se dire, malgré tout, la chose est de plus en plus présente. On voit des objets graphiquement mieux pensés qu'ils ne l'étaient il y a quelques dizaines d'années. D'abord parce qu'il y a l'émergence de graphistes qui naissent depuis les écoles d'art françaises bien mieux qu'ils n'existaient il y a 30-40 ans, parce que ces écoles sont fortifiées dans ces secteurs-là. Donc d'un côté, un constat d'une stabilité que certains pourraient qualifier de malheureuse, et dans le même temps, une grande variété, l'émergence de maisons d'édition toujours plus nombreuses. Comment vous expliquez ce qui pourrait apparaître a priori comme contradictoire et qui finalement ne l'est pas, mais quelle lecture vous en faites ?
Alors, moi, je constate une vraie diversité, en fait, qui est apparue assez récemment. Hein. Mais s'il est très facile de publier un ou deux livres au départ, il est très difficile de durer plusieurs années, en tout cas 10 ans. Là, maintenant, on peut en avoir l'expérience. Non, je suis pas très inquiet par rapport à cette question-là. Alors, ce qui m'a plus inquiété, c'est une étude américaine qui a été publiée cet été sur la question de la lecture à l'écran. Alors, on nous a fait croire, en tout cas, c'est mon sentiment, en tout cas, des grandes entreprises, on nous a fait croire qu'il allait être possible de lire tous les livres sur des tablettes numériques vendues très chères. Et que ça nous coûterait moins cher par la suite. On voit très bien en fait que le marché du livre sur tablette est extrêmement limité et qu'il a en plus économiquement aucune conséquence sur le livre en fait dans le fait de le produire. Mais c'est davantage en fait l'appauvrissement en fait du temps de lecture chez les générations qui ont grandi avec les écrans. Après, il me semble qu'on est quand même dans un domaine où nos lecteurs sont intéressés par les objets bien imprimés, bien designés, etc. Donc on profite quand même d'un noyau de lecteurs qui sont très attentifs à cet aspect-là. Alors ensuite, par rapport à ce que vous disiez sur la qualité des graphistes qui sortent des écoles d'art françaises, moi je suis extrêmement surpris. Parce que je connais en fait la qualité grandissante des étudiants qui sortent à la fin du cursus et par la pauvreté en fait visuelle et typographique des livres qu'on peut voir en librairie, soit spécialisés, soit généralistes, enfin généralistes surtout. Donc en fait, de mon point de vue, les éditeurs classiques sous-exploitent les graphistes et leur créativité.
D'ailleurs, il y a quelque chose quand même qui revient régulièrement quand on parle avec des gens qui sont dans des... Oh, pardon.
Non, je t'en prie. Le micro ne marchait pas. Non, je voulais juste rebondir à votre question à l'endroit d'un lieu d'art, hein, parce que nous, on initie des projets, on n'est pas donc maison d'édition en tant que telle. Mais c'est vrai qu'on a une politique éditoriale très forte, très soutenue, quasi systématique par rapport à chaque artiste qui passe. Donc ça, d'une certaine manière, ça dynamise aussi le secteur de l'édition, de l'art, de la littérature, de la danse, parce qu'on n'en a pas parlé de la danse, mais ça rejoint aussi ce champ des livres d'art. Il y en a très très peu, parce qu'il y a très très peu de projets qui sont portés, et il y a encore moins d'éditeurs, et il y a encore moins de financement pour ces projets-là, qui sont toujours très durs à financer. Mais donc voilà, on a une politique éditoriale qui, d'une certaine manière, en tout cas à notre échelle, permet de dynamiser un peu ce secteur. Et aussi parce qu'on travaille beaucoup avec des artistes. Alors ça, je ne sais pas si c'est un hasard ou si c'est des affinités tacites, mais en tout cas avec des artistes qui s'intéressent eux-mêmes beaucoup à la question de l'objet du livre en tant qu'espace de création. Donc ça aussi, je trouve qu'il y en a de plus en plus, c'est-à-dire vraiment le livre est intégré comme un espace de création à part entière, avec toute la réflexion qui y est liée, c'est-à-dire le rapport entre, mettons, un projet qui serait celui d'une exposition, pour faire court, et la manière dont il tisse des liens avec le livre, comment le livre se retrouve lui-même pris dans l'exposition et fait aussi partie de l'espace d'exposition. Et donc ça, c'est aussi des liens auxquels on est très attentif et auxquels on s'intéresse beaucoup, et qui génère aussi pas mal de discussions avec les artistes, et autant que possible dans certaines rencontres publiques, d'événements qu'on organise au laboratoire ou ailleurs, de voir comment on peut mettre en avant cette parole. Donc ce qui me fait juste très brièvement rebondir sur un projet en cours d'édition avec l'artiste Uriel Orloff, qui a une exposition au laboratoire, et que le CNAP soutient donc à travers Shelter Press, avec qui donc on coédite ce livre. Et clairement, pour Uriel Orloff, le livre est quasi permanent dans tous ses projets artistiques. C'est vraiment, ça fait partie de son travail artistique. Et ça, je trouve qu'en tant qu'institution artistique, c'est une réflexion très intéressante à avoir, et aussi une action à mener très intéressante par rapport au public. Parce que pour le coup, nous, on a un accès direct, alors pas à tous les lecteurs, mais à beaucoup. Parce qu'on vend aussi les livres sur place, on organise pas mal d'événements autour des livres, ce qui est aussi le cas de la Fondation Ricard. Et ça, c'est vrai que c'est un grand privilège, et pour nous, parce qu'on bosse beaucoup sur les livres, et pour les artistes aussi.
Et pour les lecteurs.
Oui, bien sûr.
Qui, du coup, de fait, se retrouvent en contact direct avec les acteurs multiples des ouvrages.
J'arrête face à nous pour savoir si certains seraient désireux d'une question à l'endroit de ceux qui sont autour de la table. Et non, ce n'est pas le cas. D'autres compléments ?
Je sais pas, j'ai quand même pensé tout à l'heure quand vous parliez, en vous écoutant, et en vous écoutant là à l'instant, il y a quand même quelque chose. Vous parliez de ce que permet le financement public dans la pérennité de certains projets, ou en tout cas dans le fait même d'exister. Quand on discute avec des éditeurs beaucoup plus installés, beaucoup plus importants, très souvent ils se plaignent en réalité de la grande présence des petits éditeurs en librairie. C'est-à-dire que ça prend de la place sur les tables, alors que parfois les structures ne sont pas si pérennes et que du coup eux-mêmes ne peuvent plus poser tous leurs bouquins sur la table, qui aussi très régulièrement sont assez pauvres graphiquement, parce qu'il y a aussi des mécaniques qui sont en place comme ça. Ce que permettent ces aides, très clairement, c'est la très grande vivacité de toute cette production indépendante qui... Et je trouvais intéressant, parce qu'on en a très peu parlé à part Alexandre, du moment numérique, du moment Internet et du moment de l'écran que l'on traverse. Alors, on ne va pas rejouer le coup, la fin du livre, etc. Il pourrait être très évident que ce n'est pas le cas. Mais que, du coup, un certain nombre de livres sont quand même produits dans ce contexte. C'est-à-dire en intelligence avec ce contexte.
Oui, il nous semble, au CNAP en tous les cas, nous pouvons constater, puisque c'est une aide à l'édition papier et à l'édition numérique, que les projets qui nous arrivent dits au titre de l'édition numérique sont rarement aboutis, ou qu'on n'est pas encore, ou insuffisamment, face à des objets qui nous sembleraient évidents de devoir être soutenus. C'est-à-dire qu'il y a une forme déceptive, très souvent, quand on regarde le tour d'une commission... l'examen des différents dossiers, et il y a peu de dossiers qui numériques, alors même que ça semble évident, nous donne tout à fait satisfaction.
Tout à fait. Et je pense du coup que ça dynamise d'un autre côté l'envie de l'objet, l'envie du livre,
du papier
lui-même, se retrouve dynamisé par un drôle d'effet de rebond, par la grande déception à tout un tas d'endroits vis-à-vis des écrans. Et que ces aides permettent à des éditeurs qui ont l'énergie de la folie d'y aller, alors que c'est quand même pas évident de le faire, et de produire des livres très beaux. Et pourquoi ils se retrouvent sur les tables des libraires? C'est la fin de l'histoire. Parce qu'ils sont bien, ces livres. Et que les libraires les vendent, pour le coup. Donc, je veux dire, il y en a assez de bien pour que...
Donc vous êtes des éditeurs satisfaits, qui faites de beaux livres, qui arrivent à rencontrer des publics dans des foires, mais également sur des tables de librairie, donc des maisons qui marchent, malgré une économie stable, c'est cela?
Vous êtes précaire, quand même.
Ah, merci.
Faut pas dire... Il faut dresser un tableau, mais... C'est
non, volontairement un peu provocant.
C'est évidemment extrêmement fragile et sans cesse. Tout ça est très branlant, mais c'est aussi très excitant, en effet.
Les livres permettent aussi des montages financiers. En tout cas, là, je parle encore toujours à partir d'un lieu d'art, les laboratoires, comme structure d'accompagnement d'édition. En tout cas, les livres permettent des montages financiers qui sont extrêmement variés. Alors, c'est vrai qu'on est toujours dans une économie précaire, mais il y a quand même possibilité d'inventer pas mal de choses, que ce soit des partenaires type autres lieux, parce que justement, ils ont aussi participé d'une certaine manière à la construction des projets, que ce soit du mécénat, que ce soit aussi des apports des artistes ou autres. Voilà, enfin, il y a pas mal de montages financiers. Je sais que nous, il n'y a pas un livre qui s'est financé de la même façon.
Enfin, moi, je dirais que c'est quand même... Je trouve ça très dur, très difficile et très épuisant. Et ça demande quand même une certaine conviction dans le projet et une certaine disponibilité et énergie. Enfin, il ne faut pas non plus faire croire que monter des projets de livres, c'est assez simple et finalement...
Et pour ma part, je suis persuadé du contraire. Donc, merci de nous rappeler que c'est un exercice qui demande de l'engagement, de la répétition. Et vous évoquiez d'ailleurs tout à l'heure que sans le travail de conception opérée par la maison d'à côté, s'agissant de Les 42, la maison d'édition aurait beaucoup de mal à vivre. Enfin, vous évoquiez seulement peu de temps la possibilité de générer un salaire. Donc, ce que je retiens, c'est à la fois la diversité des productions, une qualité graphique augmentée au fil des années, une variété des acteurs, des objets qui accompagnent, qui quelquefois peuvent prendre place à la place de l'exposition, quelquefois ils l'accompagnent, quelquefois ils sont la résultante. J'entends que bien que cette économie reste précaire, elle permet la profusion, une heureuse profusion en tout cas formelle, parce qu'on est face, et là on le voit, sur les tables, il y a des objets de toute nature, et que voyez, ce type de salon permet de donner à voir cette diversité. Je vous propose d'en rester là, à moins que vous ayez quelques compléments. Et si c'était le cas, je remercie DUU, c'est ça, du radio, merci. Offprint qui a permis cette rencontre, et évidemment tous ceux qui étaient là à m'écouter ce soir. Merci.
Merci.